Alors que le Seigneur soit béni, qu'il vous donne sa parole. Il y a souvent un phénomène qui se produit pour moi, c'est que j'ai un texte qui me vient à l'esprit pour le, mais en début de semaine pour la prédication. Et je vois quelques aspects là, comme ça. Et je laisse ces pensées parce qu'il y a plein d'occupations pendant la semaine. Et ensuite, je reprends le message, mais un peu tardivement pour le préparer. Et alors là, je découvre plein d'applications, de prolongements à ce message à travers la méditation précise de la parole. Et puis, je vais voir dans les commentaires, et ça va tellement loin que finalement, je bute parce qu'il y a trop de choses à dire. Alors, ce matin, je vais vous lire le passage, et je vais vous lire directement un commentaire, et puis une autre petite partie de commentaire, et puis je prolongerai comme je pourrai, avec cette intention que vous soyez des hommes et des femmes libres. Voilà ce qui est, en fait, dans mon cœur, la pensée principale que je vous demande de recevoir dès maintenant. Soyez des hommes et des femmes libres au nom de Jésus-Christ. Et pour cela, eh bien, nous allons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 30. Et nous allons interrompre au cours de tout ce passage. Mais en réalité, il faudrait aller jusqu'au bout du chapitre, parce que tout s'enchaîne et se complète. Et certaines choses qui sont à la fin nous ramènent au début. Mais enfin, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham !» Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, « moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela, Abraham ne l'a point fait. » Je vous lis le commentaire de ce passage dans « Commentaire biblique contemporain », en fait réalisé par 70 théologiens africains et qui est destiné plus spécialement à l'enseignement des églises en Afrique. D'où le début du commentaire ici. Jésus, le vrai libérateur. De nombreux pays d'Afrique célèbrent le jour où ils ont cessé d'être des colonies pour devenir des nations libres. Mais tout le monde ne profite pas des fruits de cette liberté. Beaucoup d'Africains sont toujours en esclavage, souffrant de maux tels que le népotisme, la corruption, l'égocentrisme, les meurtres, etc. La libération dont parle ce passage permet à tout résident d'une nation libre de récolter les bénéfices de l'indépendance politique. Le passage se présente comme un dialogue entre Jésus et des Juifs qui ont accepté seulement intellectuellement son message. À ces gens, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Le verbe « demeurer » implique l'écoute, l'acceptation de sa parole et l'obéissance. Accorder intellectuellement son assentiment ne suffit pas. S'ils veulent avoir une relation réelle avec lui, ils doivent se mettre à vivre selon son enseignement. En ouvrant leur cœur et leur esprit pour apprendre de lui, ils expérimenteront la vraie liberté. Mais les Juifs pensaient qu'ils étaient déjà libres. Nous sommes les descendants d'Abraham. Et nous n'avons jamais été esclaves de personne. À leur avis, descendre d'Abraham leur donnait un statut royal, et même s'ils sont politiquement sous la domination de Rome, leurs âmes demeurent libres, sous leur seul maître, Yahvé. Jésus fait remarquer que la liberté la plus importante est la liberté morale ou spirituelle. Quiconque commet le péché est esclave du péché. Par conséquent, ils étaient tous en tant que pécheurs des esclaves. Lui, en revanche, n'est pas esclave du péché, mais fils de Dieu. Et à ce titre, il a le droit d'affranchir les esclaves, de les libérer des chaînes qui les entravent. Il le fait pour ceux qui le lui demandent avec foi, ceux qui cherchent à le tuer au lieu de venir à lui pour être libérés sont les ennemis évidents de son père et appartiennent par conséquent à un autre père, les versets 37 et 38. Voilà pour ce commentaire. Et un autre commentaire de Frédéric Godet, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, enfin, qui a fait le commentaire général de la Bible, avec une pensée évangélique bien affirmée et théologiquement très affûtée. Et lui, voilà, il développe, mais je vous lis seulement le début, avec ce problème qui se pose. C'est que, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et donc, Jésus va s'adresser à ceux qui ont cru en lui, mais on va voir au fur et à mesure, en fait, du passage, que ça va mal tourner. Que ceux qui ont cru en lui vont finalement être mis en cause très sévèrement par Jésus. Alors comment se fait-il que cette situation se présente de cette manière? Au lieu de les confirmer dans leur foi, Jésus finalement leur dit « Ben non, vous croyez, mais en réalité, vous ne croyez pas vraiment. » Le terme « crure » désigne sans doute ici la disposition hautement exprimée à reconnaître Jésus comme le Messie. Dans ce nombre assez considérable de croyants se trouvaient peut-être des membres du Sanhédrin. Plusieurs des chefs crurent en lui, au verset 12, chapitre 12, verset 42, il est écrit. Ils sentaient bien que dans les paroles que Jésus venait de prononcer, il y avait autre chose qu'une vaine jactance. J'aime bien ce mot. On ne l'emploie plus beaucoup. Mais Jésus n'est pas plus ébloui par ce succès apparent qui ne l'avait été par la profession de Nicodème, au chapitre 3, et par l'enthousiasme de la foule galiléenne, au chapitre 6. Au lieu de traiter en convertis ces nouveaux croyants, il les met immédiatement à l'épreuve en leur adressant une promesse qui, malgré sa grandeur, présente un côté profondément humiliant. C'est ainsi qu'il agit souvent. Aussitôt, celui dont la foi n'est que superficielle se heurte à la sainteté de la nouvelle parole et tombe. Celui dont la conscience a été saisie tient bon et pénètre plus avant dans l'essence des choses. La particule « donc » au verset 31, qui n'apparaît pas en fait dans toutes les Bibles, c'est pour certaines Bibles, c'est traduit « et il leur dit ». Mais voilà, il y a ce petit mot « donc ». Il leur dit « donc ». Ça veut dire que ce qu'il va dire après correspond au fait qu'ils ont cru, mais de façon superficielle, ou en tout cas, on peut se demander encore comment est-ce qu'ils ont cru et leur foi doit être éprouvée. La particule « donc » au verset 31 résume d'un mot la liaison d'idées que nous venons de développer. Alors, je laisse son commentaire qui se poursuit. Et j'en arrive au mien. En vous posant la question, est-ce que vous avez reçu, vous, la parole qui libère? Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors j'ai un peu buté sur ce verbe parce que j'ai voulu le retrouver, mais dans les versions modernes, ce n'est plus affranchir, mais vous rendra libre. Sauf que c'est vraiment dans le sens d'être affranchi, c'est-à-dire d'avoir été dans la position d'esclave et d'avoir été libéré de cette position d'esclave, d'être devenu un homme libre. Et si Jésus dit que la vérité doit affranchir, dès le départ, en fait, il déclare qu'il a face à lui des esclaves. Mais des esclaves qui ne se reconnaissent pas encore, et eux le comprennent très bien, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Mais si, dit Jésus, vous êtes esclaves du péché. Alors, échange entre Jésus et les Juifs qui ont cru en lui. Et à la fin, il apparaît que l'homme libre, c'est celui qui est capable de recevoir la vérité qui vient de Dieu le Père. Or, Jésus prévient d'entrée, la vérité qui vient du Père passe par lui, par sa parole à lui, si vous demeurez dans ma parole. Donc la réception de Jésus peut être superficielle, être convaincu par certaines paroles de Jésus qui nous confrontent à nos limites, c'est une première étape, mais qui peut s'avérer très insuffisante. C'est pourquoi Jésus va tout de suite plus loin. Il veut des disciples qui vivent de la vérité qu'il est venu apporter. L'échange, bien sûr, qui se concentre ici en quelques phrases, se reproduit dans chacune de nos vies, sur une période plus ou moins longue. Mais à la fin, la question se pose, la parole du Fils pénètre-t-elle en vous? Si oui, vous deviendrez libre. si elle reste à la surface, vous restez des esclaves. Et même, vous finirez par vous retourner contre lui et à vouloir le faire mourir. Car c'est bien cela l'enjeu ici. Vous voulez me faire mourir, dit Jésus. C'est bien le sujet. Jésus est l'homme libre de la maison du Père parce qu'il porte en lui toutes les paroles du Père. Il les a toutes reçues et n'en laisse aucune à tomber à terre. Il ne pêche pas, il fait ce qui est agréable au Père. Il connaît la maison du Père, il en vient. Il ne dit pas seulement « j'ai entendu » dans le passage, mais aussi « j'ai vu ». Tout ce que j'ai vu, je dis ce que j'ai vu. Il sait comment les choses se passent dans la maison du Père. Il dit ailleurs, dans cet évangile, « je fais ce que fait le Père » ou « je fais ce que je vois faire au Père ». Il évoque les œuvres de son Père. Les paroles de Jésus correspondent aux actes de Dieu. Et les actes de Jésus, ils correspondent aussi. Si nous voulons agir selon les actes de Dieu, il est impératif que les paroles de Jésus pénètrent en nous, que nous demeurions dans sa parole. Je passe une partie du commentaire. Les Juifs étaient comme tous les hommes, par nature esclaves du péché. Ils avaient oublié cette réalité et ils se pensaient différents des autres hommes par le don de la loi, par leur élection et le don de la loi. Le Seigneur avait publié pour eux une loi grande et magnifique. Mais il la subissait plutôt que de l'aimer, à commencer par n'avoir qu'un seul Dieu. Ah, comme ils auraient aimé ramener Dieu au rang de leurs idoles. L'avantage avec les idoles, c'est que l'homme peut les rivaliser, comme elles se rivalisent entre elles. Et comme vous le savez, les hommes eux-mêmes aiment à se rivaliser. Sauf que la compétition est loin d'être saine. L'apôtre traduira en quelque sorte plus tôt que nous étions dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Voilà ce qui se produit dans les relations humaines, dans cette compétition, dans cette rivalité, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. C'est très intéressant ce passage de Tite, chapitre 3, parce que c'est dans le contexte où l'apôtre nous amène à nous soumettre aux autorités de ce monde établi par Dieu. Je vais le prendre, Tite, chapitre 3, versets 1 à 3. Maintenant, je suis dans le commentaire, je ne suis pas dans ma Bible. Donc, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Voilà ce qui est attendu du chrétien. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est le monde dans lequel vous vivez et duquel le Seigneur vous a extrait par son amour. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Sortis de ce monde de disputes et d'envie, de rivalité, pour être rendu capable de répandre la douceur de Christ, les œuvres de Christ, d'accomplir les œuvres de Christ, dégager de tous ces problèmes, de toutes sortes, jusqu'à tous les... Comment dire ? Toutes les révoltes contre l'autorité politique, etc., etc., l'organisation de la société et tout. Je passe tout ce commentaire-là pour en revenir à ce que Jésus dit au départ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. À l'écoute du maître, vous devenez des disciples. Ésaïe a reçu des choses très intéressantes pour les disciples. Au chapitre 8, versets 11 à 16 du prophète Ésaïe. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Dans ce passage apparaissent les craintes des hommes, la relation avec Dieu, le risque de chute radicale. À qui est destinée cette révélation ? Aux disciples, à ceux qui se mettent à l'écoute du Maître. Au chapitre 50, nous est décrit le grand disciple. Je ne vois que cela, versets 4 à 7. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Le premier des disciples a résisté à l'opprobre par son écoute du Seigneur, parce qu'il était toujours l'oreille attentive à ce que lui disait son Seigneur chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et c'est pourquoi il a reçu la capacité de soutenir par la parole celui qui est abattu. Au chapitre 54, une promesse est faite à la malheureuse. Ah ben nous venons de le chanter au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête que nul ne console, etc. Au verset 13 et 14. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Alors je continue. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme pour son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Israël délaissé, humilié, confuse. C'était déjà l'Église, et c'est d'elle qu'est né le grand disciple de l'Éternel, le Fils qui est à l'écoute du Père. Et maintenant, cette Église engendre des fils qui sont tous des disciples de l'Éternel. Vous ne pouvez pas être fils de l'Église sans être devenu un disciple de l'Éternel. Celui qui reçoit les paroles du Fils et qui y demeure. Et alors, vous deviendrez libre. Vous êtes libre. Recevez la parole du Fils pour être libéré de l'esclavage. C'est-à-dire devenir de vrais fils et des filles de Dieu. Ah, combien devriez-vous aimer le Fils de Dieu et ses paroles de vérité? Elles vous libéreront du péché et de l'illusion d'honorer Dieu, alors qu'en réalité, vous n'en êtes que les esclaves. C'est là le vrai problème qui est posé aux Juifs. Et à tout croyant qui aurait la même relation avec Dieu et sa loi que le juif. Il y a une progression dans ce passage de l'Évangile. Premièrement, une promesse générale de liberté, donc pour les disciples. Deuxièmement, une confrontation sur l'état initial d'esclavage qu'ont oublié les Juifs, en fait, cet esclavage du péché. Mais troisièmement, un décalage, le fait que Jésus déporte la situation d'esclavage initiale, celle du péché, à leur situation d'esclave actuelle. Par le juif, l'être humain esclave du péché se retrouve en définitive esclave de Dieu. Il a été amené dans la maison du Père, mais il le sert encore comme un esclave. C'est ça le problème, et c'est là où Jésus veut les amener beaucoup plus loin. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprendra dans les Épîtres au sujet de la loi qui fait de nous des esclaves. Et c'est un passage obligé pour que nous comprenions quelle est la nature, en fait, quelle est notre nature d'esclave. Esclave du péché, la loi nous est donnée et elle devient finalement un joug qui pèse sur nous. Elle nous enferme dans nos incapacités, dans notre difficulté profonde à aimer et glorifier Dieu. Et elle peut donner l'illusion que oui, nous honorons et aimons Dieu. Mais notre relation avec Dieu n'est toujours pas fondée sur la libération qu'il opère en nous par l'amour et la vérité qu'il a envers nous. Et il faudra reprendre ce thème. C'est là que j'ai atteint mes limites dans la préparation. Mais combien, même de chrétiens, continuent à avoir une relation avec Dieu qui est faussée par une mauvaise réception, compréhension, usage de la loi de Dieu. Jésus veut réellement que nous devenions libres, que nous vivions comme lui dans la maison du Père, comme des fils et des filles. Mais un phénomène se produit qui fait que nous ne comprenons pas l'amour que Dieu a pour nous, en fait. Et nous transformons le don de sa loi comme étant un moyen qu'il a mis en œuvre pour nous dominer, pour nous obliger, alors que sa volonté est de nous amener à la liberté, à la confiance, à la foi, à une relation où tout découle de la connaissance que nous avons de son amour et de sa vérité éternelle. Je ne vais pas aller plus loin. Mais vraiment, si vous identifiez dans vos cœurs des réactions je dirais pas de révolte contre Dieu, mais de résistance à sa totale présence dans vos vies, en fait. Allez chercher la délivrance, non pas en vous affranchissant de ses paroles, de ses commandements, mais en identifiant ce qui, en vous, continue d'être gouverné par, en fait, par le péché, bien sûr, mais par ce qui a été faussé dans votre compréhension de Dieu et de son amour. Et mettez-vous réellement à l'écoute du Fils. Recevez, travaillez la réception de ses paroles, sa parole de vérité. Allez la chercher, cette parole, là où elle se trouve dans l'Évangile. Et croyez véritablement que là, le Seigneur, par cette parole, vous rendra libre. Amen.